You're listening to Le Podcast e-commerce by Thomas Bertrand. Let's get started.
Bienvenue à tous sur le podcast e-commerce. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Gaëlle de Dorlodo, fondatrice du site de revente de bijoux de luxe WePrecious. Avec une expérience en Asie, à Tokyo notamment, dans le secteur du luxe et maintenant basée à Barcelone, Gaëlle continue d'innover et je suis impatient d'en savoir plus. Gaëlle, bienvenue dans le podcast e-commerce. Pour commencer, peux-tu nous présenter WePrecious.com et nous dire d'où vient ton inspiration pour lancer ce site ?
Bon, bonjour Thomas, merci beaucoup de m'accorder du temps. Alors effectivement, donc je suis Gaëlle de Dorlodo, déjà je me présente. J'ai effectivement vécu 7 ans en Asie, dont 4 et demi au Japon. Et avant ça, une carrière dans le luxe et en tant qu'entrepreneuse. Donc à mon retour en Europe, j'ai effectivement décidé de lancer cette plateforme WePrecious, qui est complètement dédiée à la joaillerie de seconde main, mais entre particuliers. Donc voilà, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir trouver un endroit où je puisse vendre mes bijoux en étant accompagnée avec un bon niveau de service, mais aussi où les bijoux que je veux vendre seront bien mis en avant dans un environnement qui soit suffisamment luxe, dédié à la joaillerie et en ligne avec l'image qu'on a des bijoux.
D'accord.
Donc, sur cette plateforme, nous, enfin, l'idée c'est vraiment que j'avais, c'était de pouvoir avoir un endroit où je puisse retrouver les icônes, on va dire, des marques de luxe. Donc, cette plateforme, elle est dédiée entièrement aux bijoux de marques de luxe. Donc, bijoux signés, joaillerie fine, comme on dit, pas du tout de joaillerie de bijoux fantasy. Et moi, j'agis comme tiers de confiance, finalement, entre le vendeur et l'acheteur, pour à la fois faire une expertise des bijoux, donc apporter une garantie expertise, garantie authenticité, vérifier les vendeurs, les aider à fixer un prix qui soit raisonnable, qui soit juste pour le vendeur, mais aussi juste pour l'acheteur, et bien pour qu'il puisse le vendre facilement. Et puis, en leur apportant un niveau de service qui soit quand même un peu plus proche de, enfin, disons, en ligne avec la nature du produit.
D'accord. Je vois, donc, Boucheron, Bulgari, Cartier, Chanel, donc vraiment les grandes marques sont présentes.
Voilà, donc on est vraiment sur les marques de joaillerie, les marques joaillères. Il pourra y avoir certaines marques de créateurs de bijoux, mais toujours du bijou signé et de luxe. Donc, tu m'as parlé de l'inspiration. En fait, c'est vrai que bon, moi, ça fait assez longtemps que je suis, on va dire, consommatrice de l'économie circulaire. Donc, j'achète plus beaucoup de choses neuves, beaucoup de seconde main, que ce soit en vêtements ou même en mobilier et en bijoux aussi. Et c'est vrai qu'au Japon, c'est vraiment un marché hyper mûr sur la seconde main avec... vraiment une particularité qui est que par rapport à l'Europe, je trouve, ou même aux États-Unis, c'est un marché qui est finalement assez peu digitalisé et en tout cas très, très retail. Donc, effectivement, en habitant au Japon, j'ai découvert toutes ces chaînes japonaises de produits de luxe, parfois très, très bien présentées, des boutiques parfois qui sont vraiment au niveau des boutiques de luxe et où vous pouvez trouver toutes sortes de produits en ayant vraiment l'assurance et la confiance pour acheter en étant 100% sûr que ce soit en bon état et garantie authentique.
Ouais.
Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, ils avaient... effectivement, il y a bien sûr la maroquinerie qui est un très gros marché au Japon, le prêt-à-porter, mais ils ont aussi des boutiques, enfin certaines chaînes ont des boutiques dédiées à la joaillerie et aux montres, bien sûr. Et la joaillerie, je trouvais intéressant parce que il y a quand même beaucoup de plateformes qui sont déjà dédiées à la mode. Beaucoup de plateformes qui sont aussi dédiées aux montres, avec un très haut niveau de qualité, un choix incroyable, des garanties. Et enfin, on y va, je pense, un peu les yeux fermés en confiance. Mais sur la joaillerie, je trouvais qu'il y avait finalement peu d'offres et beaucoup de bijoux qui sont finalement présentés sur des marketplaces de mode. Or, c'est un bijou quand même, c'est un produit particulier qui nécessite une certaine approche, et que ce soit en termes de service, que ce soit en termes de packaging ou de photographie, par exemple. et même d'expertise. Donc, je me suis dit, ben, je pense que peut-être sur ce marché-là, il y a la place pour une offre de qualité, même s'il y a des choses qui existent déjà, mais c'est ça qui est bien, d'avoir des concurrents. Une offre de qualité qui apporte vraiment un service, une réassurance, finalement un endroit où on sait exactement ce qu'on va trouver, et c'est-à-dire des marques. On veut un produit, on veut un bijou de marque, un bijou assez iconique, des lignes très connues des marques de luxe. Bon, ben, on peut venir sur cette plateforme en étant complètement rassuré sur l'achat.
Tu penses qu'il y avait un manque, ou enfin de la place, parce qu'il y a un manque d'expertise aussi, ou est-ce que c'est aussi parce que c'est plus compliqué de trouver des bijoux de grandes marques que de la maroquinerie, et beaucoup de gens peut-être ne sont pas prêts à vendre les bijoux qu'ils ont chez eux, même s'ils n'utilisent pas.
Ben alors c'est ce que je me suis dit au début, donc j'ai fait ma petite étude et en fait je me suis rendu compte, non, il y a beaucoup beaucoup de bijoux sur des plateformes type Vinted ou Le Bon Coin, hein, ne serait-ce que ça. Après, est-ce que vous avez envie de les acheter là? Je sais pas.
Voilà.
Même s'il y a des, enfin, Le Bon Coin, enfin, je crois que c'est Vinted qui vient de lancer un service de vérification, mais bon.
D'accord.
Est-ce que c'est suffisamment, est-ce qu'on est suffisamment en confiance? Je sais pas, moi, si Vinted ou Le Bon Coin ou d'autres plateformes vraiment mode peut apporter avec ses équipes internes une expertise qui soit suffisante, parce que la joaillerie, ça nécessite quand même une expertise très particulière. En tout cas, je pense qu'il y a des gens qui ont envie d'aller sur une plateforme vraiment spécifique. D'ailleurs, moi, j'avais interrogé, quand j'ai commencé, je me suis dit, mais je vais interroger des femmes. J'en ai dans mon entourage, des femmes de mon âge ou des femmes un peu plus jeunes, et pour leur demander déjà, est-ce qu'elles auraient envie d'acheter en seconde main. Je crois qu'aujourd'hui, la question se pose plus trop, même si on peut se poser la question, mais finalement, quand on pose la question aux gens, tout le monde est percé dans le seconde main. Déjà, c'est plus trop un frein.
D'accord.
Même à 50, 60 ans. Il n'y a pas de, voilà, c'est pas que les jeunes qui achètent en seconde main. Et est-ce que, quels seraient un peu les critères pour vendre ou acheter? Et pour acheter, le premier critère, c'était vraiment la garantie authenticité. Ça paraît un peu évident, c'est un peu une tarte à la crème, mais en fait, si on regarde en détail, il y a beaucoup de sites qui disent nous expertisons, nous authentifions, nous garantissons. Mais quand on regarde dans le détail, il n'y a pas tant de garanties que ça. J'ai eu l'impression, en tout cas. Bon, après, hein, je sais pas. Je veux dire, chacun son positionnement. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus positionnés sur avoir un choix très large, et c'est ça qu'on va chercher, et c'est très bien. Mais du coup, on peut peut-être prendre un peu plus de risques. Et puis d'autres qui vont être plus sur une sélection, mais en apportant des garanties. Moi, c'est ça que j'avais envie de faire.
Et puis en plus,
c'est vraiment se dire. Oui, vas-y.
En plus, même si c'est marqué que c'est authentifié et garanti, il y a quand même aussi le respect de la marque, et je pense que Louis Precious le fait bien, ça, c'est que de respecter une certaine image des produits et donc des prix qui sont pratiqués. Alors qu'on n'a pas forcément envie d'acheter une bague qui vaut cher sur un site qui la vend moins bien visuellement.
Mais en tout cas, moi, c'est mon passif de marketeuse de marque de luxe. Tu sais, j'ai passé 13 ans chez LVMH, chez Louis Vuitton. Et c'est vrai que quand j'étais chez Vuitton et qu'on voyait des produits à nous dans des boutiques de seconde main mal présentées, ça nous faisait un peu mal au cœur.
Ouais.
Avec tous les efforts de marketeurs qu'on faisait. Donc, l'idée, c'était aussi un peu de se dire, finalement, j'essaye de respecter un peu toutes les parties. Le vendeur, il n'a pas envie de brader trop un produit qui finalement, un bijou qui finalement ne va pas tellement s'abîmer dans le temps, peut se rénover relativement facilement. Ça nécessite quelques précautions et opérations, mais en tout cas, c'est possible. Donc, il y a souvent des vendeurs. D'ailleurs, c'est un peu le problème des plateformes. C'est que les vendeurs qui fixent leur prix eux-mêmes, ils vont mettre parfois le bijou pratiquement au prix du neuf. Bon, non plus, parce qu'on achète de la seconde main. Donc, on veut être juste pour le vendeur. On veut aussi être juste pour l'acheteur. Il faut quand même qu'il ait une certaine décote, sinon il n'y a aucun intérêt à acheter en seconde main. Mais aussi, je trouve, pour la marque, parce que finalement, il y a quand même une création, il y a quand même une propriété intellectuelle derrière. Et présenter un produit qui sont quand même des beaux produits, des produits d'artisans, il y a des bijoux il y a beaucoup d'opérations manuelles. Il y a des maisons de bijoux qui ne sont pas des énormes maisons et qui ont vraiment un créateur et qui ont vraiment un savoir-faire. Donc, je trouve que ce serait pas très juste de montrer leurs produits dans un environnement qui soit pas un tout petit peu enchanteur, on va dire. Donc, j'ai essayé d'avoir un environnement graphique qui soit attractif en me disant, je vais pas me comparer à une marque de luxe. Je suis pas une marque de luxe, mais en tout cas, je montre des bijoux de luxe, donc j'ai envie, en tout cas, qu'il y ait un univers. Voilà, associé, qui est peut-être un peu plus moderne, un peu moins, comment dire, luxe au sens traditionnel du terme, évidemment, parce qu'on est dans la seconde main et qu'on s'adresse aussi à une clientèle peut-être un peu plus jeune, un peu moins conventionnelle, ou une clientèle qui va peut-être pas pousser la porte des maisons de luxe, mais en tout cas, qu'il y ait une identité, des photos de produits qui soient qualitatives, assez détaillées, où on voit les détails, parce que c'est quand même de la seconde main, donc on a envie de savoir ce qu'on achète. Des textes qui soient un peu élaborés, avec pas mal de détails sur le produit. Et puis voilà. Donc l'idée, c'est de se dire, on a des produits qui sont présentés dans de bonnes conditions, et je pense que tout le monde, et le vendeur, peut être content de voir son produit, son bijou vendu dans ces conditions-là. L'acheteur est plus rassuré, et la marque, finalement, bon, même s'ils vont pas forcément aller voir mon site, mais en tout cas, s'ils le voyaient, je me dis qu'ils seraient peut-être pas trop embêtés que ce soit présenté comme ça.
D'accord. Dans la seconde main, j'ai l'impression que le challenge, c'est aussi bien de vendre comme un site classique que d'avoir le stock, quoi, l'inventaire de produits à vendre, c'est ça? Non. Comment oui. Arrives à gérer ça?
Ah, c'est un peu comme une mayonnaise. C'est-à-dire que il faut faire monter les deux parties en même temps. Vous pouvez pas accumuler 3000 produits et ne pas avoir commencé à essayer de vendre. En fait, c'est un peu délicat parce que les vendeurs, ils sont là aussi pour que vous vendiez leurs produits. Donc, il faut trouver le bon équilibre pour faire monter les deux, à la fois l'offre, qui n'est pas un stock finalement, dans mon cas, parce que je n'achète pas. Je suis vraiment juste un intermédiaire. Donc, il faut que je trouve des vendeurs qui ont envie de mettre leurs bijoux, mais finalement, ils en restent propriétaires et ils le gardent jusqu'au moment de la vente. Et ensuite, il faut en même temps chercher des acheteurs. Donc, c'est presque comme... c'est circulaire, enfin voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que s'il y a une rupture dans le cercle, eh ben, évidemment, ça ne fonctionne pas. C'est sûr que c'est complexe. C'est assez complexe et ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est un peu le nerf de la guerre, effectivement. Ouais.
Et je crois que c'est pas ta première expérience de lancer en fait une entreprise, non? Tu as parlé de Edoki.
Oui, donc effectivement, en 2010, j'avais fondé une autre start-up à l'époque, maintenant ça n'en est plus trop une, mais donc c'est une plateforme éducative basée sur la pédagogie Montessori. Donc Edoki Academy, l'idée c'était vraiment d'offrir une plateforme pour les 3-8 ans, on va dire, avec des contenus éducatifs assez ludiques, mais vraiment basés sur la pédagogie Montessori, sur iPhone, iPad. Donc aujourd'hui c'est une plateforme sur abonnement, qu'on trouve sur plusieurs supports et plusieurs canaux de iPhone, iPad, mais aussi web. Et puis, il y a 2 ans, on va dire que Bayard a pris une participation majoritaire dans la société.
D'accord.
On peut vraiment dire qu'on est une filiale, mais on fait partie du groupe Bayard. Oui. Et voilà, moi, la société existe toujours, on est toujours dans l'aventure, mais... c'est vrai que j'avais depuis longtemps envie de remonter un projet qui permette d'allier mon passif luxe et produit, parce que c'est vrai que moi, je suis vraiment une personne de produit, et puis l'aspect digital qui m'avait beaucoup intéressée dans cette première aventure entrepreneuriale.
Et voilà. J'imagine que c'est avec justement Bayard qui entre en capital, d'avoir le projet comme ça qui, on va dire, fonctionne sans que tu sois 100% dessus, ou même être à 80%, ça, mentalement, ça ouvre l'esprit pour justement, allez, je peux lancer autre chose.
Oui, ben, alors en fait, moi, j'ai passé pas mal d'années en Asie. Donc, comme on était 5 associés et qu'on est nombreux et qu'il y a une grosse partie, en fait, de l'équipe qui est au Canada, moi, ça fait quand même plusieurs années que j'étais plus... opérationnel. Quand j'étais au Japon, c'était vraiment trop compliqué de pouvoir travailler en équipe. Donc, j'étais plus une associée distante et bienveillante et on va dire plus dans la gouvernance, si je puis dire.
D'accord.
Mais j'avais aussi d'autres activités. Donc, ça fait déjà un moment que je suis plus à 100% sur Edoki, que j'ai fait confiance à mes associés pour continuer l'aventure au Canada alors que moi, j'étais en Asie. Mais c'est vrai que entre le fait de rentrer en Europe et le fait qu'effectivement, il y ait une direction nouvelle pour Edoki, ça m'a effectivement donné envie de redémarrer quelque chose. Peut-être que si j'étais rentrée et qu'il avait fallu revenir 100% sur Edoki en étant plus proche, ça aurait été différent.
D'accord. Bon, on vient revenir sur WePrecious, du coup, avec ce lancement donc, en ligne. Toi, tu t'es jamais posé la question. Par contre, tu voulais faire quelque chose de digital. C'était pas question d'ouvrir une boutique physique pour ce type d'entreprise.
Je pense que la question du offline sur le luxe, elle se pose toujours. Mais au démarrage, en tout cas, non, j'ai vraiment envie d'aller sur une aventure digitale. Je pense qu'en Europe, c'est vrai qu'au Japon, on pourrait se poser la question légitimement, mais je pense qu'en Europe, maintenant, les gens sont quand même assez éduqués. C'est vrai, à la partie digitale. Après, je pense qu'il faut faire le lien entre le online et le offline, finalement, avec le service, un service personnalisé. Parler aux gens, rencontrer les vendeurs. C'est vrai que moi, je les rencontre souvent physiquement ou en vidéo. Et puis après, peut-être dans le futur, des opérations, des pop-up, des présences sur des événements en physique, ponctuels. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, sur les montres, par exemple, la plupart ont des showrooms. Donc la question, je pense qu'elle se posera à un moment.
Ouais.
Mais étant donné que moi j'ai pas le stock finalement,
oui, c'est-à-dire,
c'est plus ou moins possible déjà et pertinent. Mais disons que je pense que la partie service client, elle est hyper importante de la garder vraiment en personne. La vente, finalement, je pense que quand les gens sont rassurés, de toute façon, on a aussi la possibilité de pouvoir venir voir le produit. Bon, encore faut-il être géographiquement assez proche, mais finalement, à showroom, la question est la même. Quelqu'un qui est basé à Paris et qui voudrait voir un produit, c'est assez facile de prendre rendez-vous pour lui montrer et lui faire essayer.
Donc, pour parler du Japon, là où tu as vu beaucoup de boutiques, c'est vrai que, bon, je suis pas spécialiste, mais c'est vrai qu'il y a, comme tu as pu le voir au Japon, il y a des boutiques qui sont bien achalandées, qui sont jolies, qui mettent en valeur le produit, puis d'autres un peu moins quand même. Hein. Peut-être plus encore à Kyoto, en province, c'est-à-dire qu'à Tokyo. Mais c'est vrai que, et par contre, en ligne, je veux dire que c'est pire, parce que beaucoup vont utiliser finalement les plateformes disponibles en marketplace, qui est Rakuten, et qui sont pratiques parce que c'est utilisé et c'est beaucoup de trafic et que les acheteurs savent comment acheter facilement, que ce soit portable depuis toujours ou sur ordinateur. Mais de plus en plus, par contre, ce que je vois depuis au Japon, c'est que ces revendeurs surtout de la maroquinerie, vendent sur eBay parce qu'ils veulent une solution simple pour revendre les produits qu'ils ont ici et qui sont en général de bonne qualité et très bien conservés vers des marchés en Asie ou aux États-Unis. Ça a l'air de fonctionner bien avec pas mal de chaînes de revente de produits luxe comme ça. Donc toi, tu vas rester sur quelque chose, on va dire, de plutôt local, quoi. Tu sais pas une idée de trouver des produits de luxe français pour les revendre ailleurs.
En fait, la problématique, je trouve, de la géographie, si je trouvais des vendeurs en France pour aller les revendre, alors dans ce sens-là, ça marche pas tellement. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de plateformes qui sont vraiment mondiales. Donc, si j'avais des vendeurs, par exemple, basés au Brésil, qui veulent vendre un bijou en Europe, déjà, il l'a acheté au Brésil, donc il l'a pas acheté au même prix. Il l'a acheté parfois 20% plus cher, disons. Je connais pas la structure prix exacte avec le Brésil, mais en gros, en l'Asie ou les États-Unis ou l'Amérique du Sud, ça va facile être 15-20% plus cher le prix retail. En plus, vous ajoutez des frais de shipping et peut-être des frais de douane qui sont incertains.
Ouais.
Donc, finalement, on se retrouve avec, si on regarde, sur certaines plateformes, il y a beaucoup de choix, mais quand le produit, quand le bijou ou le sac vient des États-Unis, souvent, il est au même prix qu'un produit neuf, voire plus cher, j'ai déjà vu ça. Alors, Bon, je trouve c'est... Comme en plus, les gens ont tendance à fixer des prix assez chers quand c'est des vendeurs particuliers, c'est un peu dissuasif, disons, je trouve. Donc, je trouve qu'il y a quand même une logique à rester sur une zone géographique assez limitée, plus l'aspect transport. Bon, disons, c'est l'économie circulaire. Alors, si en plus, il faut faire voyager les bijoux entre Paris, New York, Sao Paulo, ça commence à être un peu moins cohérent du point de vue de
la, oui, tout à fait, oui.
du développement durable. Bon, après, ça, c'est mon point de vue. Peut-être que je changerai d'avis. Hein. Peut-être qu'il faudra étendre sur le marché à plus de géographie, mais je pense que ça pose d'autres questions. Donc, d'accord. Pour l'instant... Oui. Mon idée, bon, déjà là, je suis sur la France parce que je suis plus, je démarre vraiment, donc j'ai envie d'être plus forte sur le marché français parce que je trouve que c'est toujours bien d'être fort chez soi, entre guillemets. En plus, ouais. La France, c'est quand même le pays du luxe. L'Europe, évidemment, ça, c'est pas très compliqué de faire envoyer. Enfin, finalement, entre Paris et Nice et Paris-Bruxelles, ça change quand même pas grand-chose du point de vue du transport. Mais voilà, en dehors de l'Europe, pour l'instant, j'ai décidé que non. Après, on verra peut-être que la réalité du business fera que...
S'il y a une demande, tu vois, peut-être, ouais.
Oui, et puis en plus, après, enfin, il y a une question de marketing. Évidemment, ouais. Les États-Unis, c'est un marché énorme de seconde main. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de marchés aux États-Unis. Mais après, le ticket d'entrée pour se faire connaître aux États-Unis, aller contacter des gens, des vendeurs, bon, bah, il est aussi énorme. Donc,
oui, tout à fait.
Encore une fois, de toute façon, je suis aussi sur un segment de marché assez, je vais pas dire niche, parce que la joaillerie, c'est quand même pas une niche, même la joaillerie de marque, mais c'est vrai que j'ai décidé de limiter à joaillerie de marque, de seconde main entre particuliers. Donc finalement, je me dis, mon but, c'est presque plus de construire une communauté. Et je trouve que c'est plus facile de le faire par géographie. Plus facile, en tout cas, plus rapide ou plus cohérent que d'essayer tout de suite d'aller très large, en fait. Je pense que j'ai d'accord. tout simplement, voilà, pas la taille critique pour faire ça aujourd'hui, ça, c'est sûr.
Est-ce que tu as des critères pour sélectionner les bijoux que tu revends sur Pruvi Precious et aussi comment tu t'assures de l'authenticité?
Bon, alors les critères, hein, je crois que je viens de les citer, mais déjà, il faut que ce soit des bijoux de marque. Bon, la raison, c'est d'abord parce que je pense que c'est un segment qui est quand même assez dynamique, qui est en croissance, et il y a une demande, et voilà, même si c'est vrai que le marché, il est beaucoup en Asie, mais je pense que même en Europe, il y a quand même une croissance de ce marché-là, une demande. Il y a aussi, quelque part, une réalité de marché qui est connue. Le prix d'une bag love, vous allez sur le site de Cartier, vous le connaissez. Donc, si vous voulez connaître le prix du marché de la seconde main, finalement, c'est relativement facile. Donc, nous, on fixe en fonction de l'année d'achat, de l'état du produit, voilà, de quelques critères. Mais finalement, tout le monde, je pense, peut vérifier. C'est relativement transparent comme système de pricing. D'accord. Donc, ça, c'est quand même les critères principaux. Après, l'état, si le bijou est en mauvais état, mais qu'il est... qu'on peut le rénover, nous on propose au vendeur une rénovation qui sera déduite du prix de vente, mais finalement à la fin on s'y retrouve parce qu'on peut le vendre peut-être un petit peu plus cher. Le bijou est en excellent état, mais c'est sûr que nous on va pas proposer des bijoux qui sont pas en très bon état. On peut accepter une légère usure, une patine on va dire d'usage, mais si vraiment on préfère le rénover, le proposer en bon état sur notre plateforme. Voilà, donc là, ça pourrait être un frein. Si la personne n'a pas du tout envie de faire la rénovation, bah, on ne pourra pas forcément le mettre sur le site. Mais en gros, les critères, c'est ça. Après, effectivement, il y a une liste de marques qui correspondent aux critères luxe, tout simplement. Alors après, elle peut évoluer en fonction de nouveaux créateurs. C'est pas forcément que des grosses, grosses marques. Ça peut être des marques plus créatives, mais qui soient quand même des bijoux en or 18 carats, ce genre de des pierres précieuses ou semi-précieuses, voilà.
Et au niveau du packaging, est-ce que souvent les gens gardent le packaging ou pas?
Oui, c'est l'idéal en fait, parce que finalement, on est quand même content, même si parfois il est un peu abîmé, mais on est quand même plus content d'avoir le bijou dans le packaging d'origine. Et puis sinon, s'ils n'ont pas le packaging, on met un écrin ou un étui non marqué, assez joli, pour que ce soit quand même, si c'est un cadeau, que ce soit quand même assez joli. Voilà. Donc, ça, c'est les critères. Et tu m'avais posé une deuxième question.
Et pour l'authenticité, oui.
Ah oui, l'authenticité. Oui, là, c'est important. Alors, on a tout un process. Déjà, je suis associée avec une experte. Donc, justement, c'est tout nouveau. Je vais justement le communiquer là-dessus sur LinkedIn là, dans les jours qui viennent. Donc, on vient de faire un partenariat exclusif avec une société qui s'appelle Patrimoine Joaillerie. Donc, c'est une experte vraiment reconnue à Paris. Donc, on a mis ensemble en place un process qui commence par une pré-expertise principalement sur photo. Donc, le vendeur, par exemple, nous envoie des photos. On regarde déjà les bijoux. Ils peuvent avoir les photos des certificats, etc. Donc, on fait une première évaluation, on va dire. Souvent, pendant la prise de vue qu'on fait généralement en physique, hein, soit c'est la personne qui nous envoie le bijou, soit on se rencontre et on fait la photo ensemble. Là, moi, je fais des photos plus détaillées et que l'experte revoit, des vidéos, on voit les poinçons, etc. Donc, on fait... Là, à ce stade, ça reste quand même une pré-expertise parce que on n'a pas encore délivré de certificat. Et c'est vraiment au moment de la vente que le bijou passe vraiment entre les mains de l'experte et qu'elle établit un certificat. Et c'est là où on a une garantie authenticité, en fait. D'accord. C'est pour ça que je dis, effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent on expertise, certes, et c'est déjà très, très bien. Mais apporter une garantie avec un certificat, finalement, il y a assez peu de gens qui le font.
D'accord.
Vraiment délivrer un certificat entre guillemets, opposable. C'est-à-dire que si vous avez un doute sérieux sur la l'authenticité du bijou et que vous avez entre les mains le certificat de patrimoine joaillerie et le bijou, on s'assure bien sûr que si on nous renvoie le bijou en nous disant « je crois pas qu'il est authentique », on va déjà s'assurer que c'est le même. Donc, on a aussi une procédure là-dessus avec... On fait des vidéos à l'emballage, on met un scellé de sécurité, donc il faut que les scellés soient présents, etc. Mais normalement, bon, évidemment, normalement, elles ne se trompent pas. Donc, on pense qu'il y a assez peu de chances que ça arrive. Mais après, l'erreur est humaine, donc ça peut arriver. Après, elle va vraiment revérifier. Bon, dans tous les cas, de toute façon, il y a toujours un droit de rétractation et la possibilité de se faire rembourser hein, si la personne veut vraiment. Mais en tout cas, nous, on refait l'expertise et... Voilà, elle s'engage, hein. Elle s'engage d'accord. Vraiment. Donc, normalement,
c'est important, ça.
Ouais, c'est vraiment. En tout cas, au pire, vous êtes remboursé, quoi. Je veux dire. Au
d'accord.
Pire,
ouais, je comprends. Après, ouais, une vraie garantie derrière.
Si, voilà, si les parties sont pas d'accord, on peut pas transformer le bijou et le rendre entre guillemets vrai s'il était faux ou s'il est faux, il faut le renvoyer à son vendeur. Mais aussi un point important, on fait beaucoup de vérifications sur les vendeurs, en fait.
D'accord.
Donc, sur l'origine du bijou, donc, on fonctionne beaucoup par réseau, par cooptation, par des vendeurs qu'on connaît ou via des réseaux dont on sait qu'ils sont de confiance. On vérifie bien sûr leur identité, on vérifie avec l'origine du bijou. Donc,
est-ce qu'il y a quelque chose de légal, je crois que, je sais pas en France, mais au Japon, genre, quand on vend quelque chose dans une boutique d'occasion, que ça soit du luxe ou pas du tout, hein, même si, on nous demande toujours, en fait, on prend une copie de notre carte d'identité. Il y a ça qui est demandé obligatoirement par la boutique. C'est quelque chose, en France, ça se fait pas. Est-ce qu'il n'y a pas une réglementation comme ça?
Non, alors moi, je le fais, en l'occurrence, mais, Je pense pas, non.
D'accord.
Dans un dépôt-vente classique en France, je pense pas. Après, en fait, je suis pas certaine, mais c'est-à-dire que, en fait, quand vous avez un dépôt-vente, vous devez quand même faire une déclaration aux douanes. Donc, il y a quand même un formalisme
D'accord.
qui est important. Et pour les métaux précieux, encore plus. Vous devez tenir un livre de police.
D'accord.
Donc, à chaque fois que vous avez du stock, même s'il vous appartient pas, vous devez faire des déclarations. Il faut quand même le noter. Il y a un numéro de suivi, un numéro de série. Donc, en tout cas, le bijou est tracé. Sur l'identité, d'accord. C'est vrai que je le fais. Donc, je suis pas 100% sûr. Je pense que ça dépend. Peut-être sur la joaillerie, c'est obligatoire. Je suis pas sûr.
Ouais. Ok. Bon, toi, tu as travaillé donc, chez LVMH. Tu parlais de parfois, justement, de voir les boutiques de seconde main qui mettent qui ne mettent pas en valeur le produit, ça fait un petit peu mal au cœur, et je comprends. Mais comment est-ce que tu vois les marques? Quelle est leur attitude par rapport justement à ce marché-là? Parce que c'est quand même un très gros marché, et j'imagine qu'elles sont aussi intéressées par celui-ci.
Bah, c'est sûr que toutes les marques sont intéressées. Après, c'était intéressant, dans une interview récemment, Bernard Arnault, je crois que c'était la présentation des résultats du groupe. Il a expliqué que ben eux leur métier c'était de fabriquer des objets de luxe, qu'ils le faisaient très bien et qu'ils voulaient se consacrer 100% à ça, et donc il a pas commenté outre mesure, mais finalement je pense que l'idée c'est de dire s'il y a des gens qui le font très bien, chacun son métier finalement. Donc il y a quand même une première chose qui est ça, eux ils se concentrent sur leur cœur de métier avec des logistiques particulières de bijoux qui sont de bijoux ou de sacs hein. De vêtements qui sont créés, produits, envoyés dans le retail, dans les réseaux. Bon, c'est un métier. La seconde main, en fait, déjà, en termes de logistique, c'est complètement différent. Parce que chaque produit est unique. Donc, c'est quand même toute une logistique un peu particulière. Donc, c'est sûr que les marques, c'est sûr qu'elles s'y intéressent. Après, je pense que chaque groupe a un peu sa façon d'aborder le sujet. Mais je pense que ça va bien sûr évoluer dans les années qui viennent. Il y a peut-être des marques qui vont se mettre à fond sur le second main. Il y a déjà des marques de luxe hein, qui ont leur propre des marques de montres notamment.
Ah oui.
Pour leur propre réseau de revente avec un système particulier, un site particulier, etc. Mais je pense que par exemple Kering, ils ont pris une participation dans Vestiaire Collective.
D'accord.
Ça, c'est une façon d'y aller. LVMH, c'est sûr qu'ils s'y intéressent parce qu'ils s'intéressent à toutes les innovations et tout ça. Je pense qu'ils vont sortir quelque chose d'important. C'est sûr qu'il y a des projets. Après, je ne sais pas lesquels, je ne suis pas dans le secret, mais ils font toujours les choses très bien, donc il y aura des choses.
Richemont, ils savent faire des produits, mais ils savent surtout aussi les vendre. Donc, c'est vrai que après, c'est une autre logistique, mais ça peut s'adapter.
Voilà, exactement. ils seraient capables, hein. Évidemment qu'ils pourraient lancer quelque chose. Après, je pense que eux, leur souci, c'est toujours d'innover. Enfin, de mon point de vue, LVMH, ils font rien juste pour le faire. Ils le font parce que ça a un sens pour eux, parce que ça apporte de la valeur, parce qu'ils sont capables d'innover, parce qu'ils sont capables d'être les meilleurs. Donc, comment ils le font, c'est plutôt ça qui est intéressant, je pense, comment ils le font. C'est sûr que ce sera sophistiqué, c'est évident. Richemont, je sais que chez Cartier, par exemple, il y a peut-être Van Cleef aussi, il y a plein de choses autour de la haute joaillerie, sur le rachat de pièces vintage ou de seconde main et la revente. C'est pas que les achats pour les archives. Je sais qu'ils font des choses sur les pièces de haute joaillerie. Après, comment ils peuvent traiter les bijoux d'entrée de gamme, entre guillemets, il y a quand même pas mal de volume en fait.
Ouais.
Donc c'est pas si évident de le faire de façon qui colle avec la marque. Ils ont aussi Richemont racheté une plateforme de montres.
D'accord.
Watchfinder. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de façons d'aller dans le seconde main pour eux. Du coup, ça peut être des partenariats avec des sociétés qui existent, des rachats, des prises de participation, des initiatives marque par marque. Gucci, par exemple, ils ont aussi tout un projet autour de la seconde main. Ils ont une boutique qui vend des pièces vintage, d'anciennes collections, mais du coup, c'est plus des pièces assez exclusives.
D'accord.
En fait, eux, ils peuvent pas le faire de façon lambda, on va dire.
Oui, tout à fait.
Il faut qu'ils fassent quelque chose d'extraordinaire. Un peu extraordinaire. Il faut que ça nourrisse la marque, sinon ça n'a pas de sens pour eux. Donc, c'est ça, leur challenge. Moi, c'est un peu différent. Plus d'apporter un service qui soit bien fait à des vendeurs particuliers, à des acheteurs particuliers, répondre à une certaine demande. Mais c'est sûr que. Mais les marques, c'est sûr que ça les intéresse, c'est certain.
Au niveau de la technique, on va dire, du site, donc c'est un site sur WooCommerce, je crois. Il est très joli, l'achat a l'air de se faire très simplement. Est-ce que tu as eu des requirements, des besoins, des choses que tu voulais absolument sur ton site, sur le processus d'achat. Est-ce qu'il y a des choses particulières ou au contraire tu voulais que ça soit simple et que ça ressemble dans le processus à un site de vente classique?
En fait, pour être très transparente, Quand j'ai commencé à travailler sur le projet, donc en octobre, je me suis dit, je préfère faire un site super simple et tester, aller rencontrer des clients et des vendeurs le plus vite possible, plutôt que de mettre toutes les fonctionnalités qui me paraissent incontournables et d'attendre un an et demi ou six mois ou un an avant de lancer mon site.
Ouais, donc j'aime je me bien suis cette dit façon de penser.
Ben oui, et puis c'est une question de budget aussi, en fait. Je me dis, bon, ben en fait, ça sert à rien de dépenser beaucoup d'argent sur un site si finalement, ça ne séduit pas le client ou le vendeur. Donc, je me suis plutôt axée sur comment dire, la communauté, on va dire. Et pour moi, un point important, c'était les visuels. Je me suis dit vraiment au départ, pour donner une impression, pour communiquer ce que j'avais envie de communiquer sur la confiance, l'environnement un peu immersif, entre guillemets, luxe, ben c'était vraiment les photos. Donc, j'ai plutôt travaillé avec un photographe pour avoir des belles photos et des photos d'ambiance et des photos produits.
Ouais.
Et mettre ça, finalement, dans un site très, très simple. Bien sûr, j'aimerais à terme avoir plein d'autres fonctionnalités, notamment des fonctionnalités vendeurs, parce qu'aujourd'hui, c'est tout, c'est un site de e-commerce. Donc, la partie vendeur, elle est traitée en back-office. Elle n'est pas intégrée au site, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant que les vendeurs aient leur plateforme où ils peuvent m'envoyer des photos facilement, quitte à ce que D'accord. moi... Enfin, voilà, ce serait un flux plus simple. Mais finalement, je préfère aujourd'hui avoir le lien avec les vendeurs un peu en mode, ils m'écrivent sur WhatsApp et par email, c'est un peu artisanal, mais finalement, ça me permet de les appeler assez facilement, d'être en mode un peu personnel tout de suite avec eux. Et puis rester très simple sur la technique.
D'accord. Ok.
C'est ouais. un peu un non-choix entre guillemets. Hein. Si j'avais pu tout avoir tout de suite, je l'aurais fait pour pas très cher.
Le principal problème, c'est d'avoir des clients. Hein. Donc déjà avoir des clients.
Voilà.
Après, tu pourras faire évoluer ça.
Et puis voilà. Et puis les fonctionnalités, elles doivent quand même correspondre à ce que veut le client. Donc je me dis, ça sert à rien de passer des heures sur une fonctionnalité parce que toi, tu penses qu'elle est importante. Si finalement, t'as pas vérifié auprès de ton client ou ton vendeur qu'elle l'est.
Ouais. Ok. Quel est le bijou que tu rêverais d'avoir listé sur WePrecious? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dont tu as envie?
Bon, moi, j'avoue que ma marque de prédilection, bon, je les aime toutes, hein, je les aime toutes, mais c'est vrai que ma marque de prédilection, c'est quand même Van Cleef. Je trouve que c'est une marque magnifique. Il y a très, très, très peu de bijoux, en fait, en seconde main. Et disponible en fait, Jean Cleef, c'est vrai qu'il y en a pas tant que ça, parce que quand il y en a, ils sont vendus. Donc là, par exemple, je viens de rentrer un très beau sautoir à l'Ambra, j'étais déjà assez contente, en or blanc et nacre. Ça, c'était un peu déjà une des pièces de rêve. Moi, je veux pas trop monter en prix, en fait, parce que je pense que, en tout cas pour démarrer, je veux rester quand même sur des pièces iconiques, donc là, c'est quand même des prix assez élevés sur des sautoirs comme ça, mais il y en a un vraiment que je trouve magnifique, c'est le sautoir tout en or. À l'embras, mais or jaune, il est. Il y en a un autre avec des diamants, mais bon là, ça devient quand même assez élevé en termes de prix. Mais le tout en or, je trouve qu'il est chic et élégant, mais il est parfait.
Est-ce qu'il y a des séries voilà, comme ça
choisir une pièce,
d'accord.
Il y en a d'autres.
Est-ce qu'il y a des séries comme ça? Je crois que dans la maroquinerie, sur la Hermès, des sacs en occasion valent plus cher que le neuf, parce qu'il y a une rareté, il faut attendre des mois et ils ne les vendent pas à n'importe qui. Est-ce qu'il y a des séries comme ça sur des grandes marques comme Van Cleef qui finalement sont plus chères à la revente?
Je pense qu'il peut clairement y en avoir sur de la haute joaillerie, sur des pièces en série limitée, etc.
D'accord.
Je pense que sur le positionnement que j'ai, pas trop. Parce qu'en fait, je reste quand même sur les pièces iconiques. Des marques, donc souvent déjà c'est des bijoux qui sont encore en catalogue, alors ça a des avantages et des inconvénients, mais en tout cas évidemment c'est moins, comment dire, c'est peut-être des pièces qui font un peu moins rêver. Si vous adorez la haute joaillerie, bon bah c'est pas forcément les pièces qui vont vous attirer le plus, mais du coup c'est des pièces qui ont un prix en magasin. Si vous, encore une fois, je sais pas, un collier à l'embras, bon, bah, il a un prix en magasin, donc si vous le vendez plus cher en seconde main, à moins qu'il ait été porté par une personnalité extraordinaire.
D'accord.
Ce qui est possible. Une star ou une reine ou une princesse, peut-être que, effectivement, là, ça peut prendre du prix. Mais je pense que c'est plus sur des pièces assez exclusives qui vont être vendues aux enchères. Là, oui, je pense que ça peut vraiment dépasser le prix. Mais c'est, je pense que c'est quand même un marché moins spéculatif que la montre, par exemple.
D'accord.
Sur des bijoux.
Oui, c'est pas de la collection, c'est vraiment pour le porter, on va dire, sur ce type de,
voilà,
de produit.
Voilà. Donc moi, c'est des pièces de série. Hein. Il y a des experts en joaillerie qui trouvent que c'est pas du tout des bijoux intéressants. Hein. Des bijoux produits en masse par quartier pour le monde entier. Eux, ils trouvent pas ça très intéressant. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même des très beaux bijoux. Qu'il y a des gens plus jeunes qui sont pas encore entrés dans l'univers de la joaillerie et qui finalement sont quand même attirés par les marques. Finalement, c'est un peu le, c'est comme sur les sacs, hein, finalement. Le premier achat, ça va pas forcément être un sac Hermès. Ça va peut-être être un Speedy Vuitton.
D'accord.
Donc celui-là, c'est un sac produit en série, mais enfin, pour moi, il est tout aussi intéressant. Il a juste une fonction différente d'entrée dans l'univers de la marque. Et pour, peut-être qu'une fois qu'ils ont acheté leur bag love, je sais pas, une jeune femme qui commence à travailler, qui a son salaire, qui a peut-être pas de famille à charge, donc qui a un peu de budget, on va dire, pour se faire un plaisir, pour se faire un cadeau, ou qui a envie de se faire offrir quelque chose, elle va peut-être aller sur un bracelet Van Cleef, disons, à l'Alhambra, et puis ensuite elle va avoir envie d'aller chez Van Cleef 5 ans plus tard pour acheter sa bague de fiançailles. Je dis n'importe quoi, mais là elle aura peut-être envie de pousser la porte du magasin, mais c'est pas grave, en fait les deux cohabitent. Pour moi, c'est ça qui est intéressant, je trouve.
D'accord. Non, c'est... Je voulais repartir sur le site après cette question un peu plus fun, on va dire. C'est, est-ce que tu peux imaginer dans le futur un autre business model? Alors, soyons fous, par exemple, je sais pas, un abonnement, tu reçois un bijou différent tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, voire de la location. Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il y a déjà, j'imagine que ça se fait, est-ce que ça existe dans la maroquinerie, mais louer un bijou pour 2 semaines ou 1 mois ou plus?
Alors, je trouve ça hyper intéressant. Après, là, tout de suite, c'est mon côté, comme je suis à fond dans la logistique, là, pour l'instant. Non, en fait, je vois un gros frein logistique. Parce qu'en fait, ce qui coûte cher dans ce business, c'est le transport assuré. Et une problématique d'assurance aussi. Je pense que, mais bon, je trouve ça hyper intéressant. Mais en fait, moi, ce que j'imaginais comme business model, enfin, ce que j'imaginais, ce à quoi je pense comme business model un peu différent, ce serait plus, autour de, alors, soit des services autour des bijoux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, alors déjà des bijoux dans des coffres. Le nombre de personnes, de mes vendeurs qui me disent, attends, pour le shooting, mes bijoux, ils sont au coffre. Alors, le coffre, il est ouvert que le vendredi. Puis alors, je peux pas y aller avant 9h parce que j'ai des réunions. Donc, du coup, bref, c'est très compliqué, en fait. Donc, je vois pas comment on peut porter ces bijoux tous les jours et changer régulièrement, si on a les bijoux au coffre. Donc, l'idée d'un service, un peu comme sur le vin, d'un service de garde de bijoux assuré, sécurisé et tout ça, mais où je le veux, je l'ai tout de suite. Ça, je trouvais ça hyper intéressant, même s'il y a encore des sujets de transport, mais il y a un peu moins des sujets d'assurance parce que là, on les rend à leur propriétaire.
Ouais.
Ou, de la même façon, je vois beaucoup de femmes qui ont des bijoux qu'elles portent tous les jours, qui sont des très beaux bijoux, mais ça s'abîme, en fait, quand même, les bijoux. Donc, et je pense que personne, très, très peu de gens, pensent à aller faire réviser leurs bijoux tous les ans, les faire nettoyer, polir, rénover de temps en temps. Il faut le faire, mais il ne faut pas trop le faire non plus trop souvent parce que toute opération comporte toujours un risque sur un bijou. Mais... Et je trouve que des services autour de ça, finalement, quand vous avez une bague que vous faites... Moi, ça m'est arrivé. En fait, j'avais une bague que j'avais pour une naissance, donc il y a un certain temps. Et j'ai perdu un petit diamant, s'il y avait plusieurs petits diamants brillants. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais la rapporter. C'est une bague boucheron. Et ils m'ont proposé, ben, du coup, de remplacer les diamants, évidemment, ce qui coûte pas très cher, mais, enfin, très cher, relativement peu cher comparé à ce que j'imaginais. Et ils m'ont proposé de refaire un rodiage, parce qu'elle était un peu abîmée, tout ça. Et, bon, j'ai dit, ok, mais je n'y avais pas pensé. Et j'ai récupéré une bague, mais quasi neuve. Et en fait, j'ai eu à nouveau envie de la porter tout le temps. Donc, je trouve que tous ces services-là, là, pour le coup, je trouve que ça ferait du sens pour l'abonnement.
Ouais, c'est intéressant.
Finalement, de se dire, ben, je paye un petit abonnement qui, à la fois, peut-être m'apporte soit une assurance, soit un système de garde, soit une révision annuelle, mais avec un peu un service.
D'accord, ouais, c'est...
Je trouve que ça, c'est intéressant, mais bon, évidemment, ça nécessite une logistique bien rodée, mais...
Ouais, mais j'imagine, voilà. Effectivement, ouais, comme service en ligne de ce... comme garagiste, on va dire, pour faire une comparaison simple, c'est bien.
Oui, ou même une expertise, parce que parfois on se dit combien coûte un bijou.
Ouais.
Ça, c'est des services aussi intéressants. Mais bon, la location, c'est sûr que ce serait hyper intéressant, mais alors ça nécessite d'avoir le stock. Donc là, c'est encore c'est un modèle vraiment différent. Mais...
D'accord.
Pourquoi pas, hein? Je pense que ça viendra.
Bon, ben, en tout cas, ouais, j'imagine qu'il y a des, il y a des choses à faire. En tout cas, écoute, moi, j'ai, je crois que j'ai épuisé mes questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter de ton côté que tu aimerais faire passer?
Pour moi, les points importants, on en a parlé, hein, c'est vraiment l'idée de se dire que c'est la vente entre particuliers, ben, on peut aussi apporter un service de sécurité, entre guillemets, de confiance sur des plateformes entre particuliers et du coup avec des commissions qui soient assez raisonnables. C'est ça aussi que j'ai envie d'apporter, un système où finalement, comment dire, par rapport à des systèmes plus traditionnels de mise en vente aux enchères, etc., où les commissions sont quand même assez élevées et puis les prix sont assez bas. On peut peut-être trouver un entre-deux qui satisfasse tout le monde et qui soit assez fluide. Donc l'idée, moi, c'est ça, je pense, le point principal, c'est de se dire minimiser vraiment les frictions entre acheteurs et vendeurs particuliers tout en vraiment respectant le produit, finalement, et la marque et la création. Voilà. C'est vraiment ça, les points sur lesquels j'avais envie d'insister.
Super, merci beaucoup. En tout cas, si des gens qui les écoutent ont des bijoux dont ils veulent se séparer, je mettrai un lien peut-être vers ton LinkedIn et puis pour te contacter.
Exactement, pas de problème, toujours disponible.
Parfait. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps, Gaëlle, et merci de nous avoir parlé de WePrecious.com.
Merci d'avoir écouté le podcast e-commerce présenté par Thomas de ShipAndGo.com, la solution pour gérer vos envois de colis.